Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Un château déserté par les humains, transformé en ferme, au sein duquel des animaux ont fondé une république. Un fort appétit de liberté, et pourtant c'est la loi du plus fort qui s'est imposée. Comment dénoncer et comment sortir de la dictature ? Voilà en quelques lignes l'histoire très politique, très animale et pourtant très humaine, écrite par Xavier Derizon, scénariste chevronné, un des plus prolifiques de la bande dessinée franco-belge, au dessin Félix Delep, un dessinateur presque débutant, et dont le talent éclate au grand jour à travers cet album au dessin très dynamique, peuplé de personnages d'une très grande expressivité. Miss Bangalore, c'est le premier tome du Château des Animaux. C'est une tétralogie signée Delep et Derizon. Il est paru chez Casterman et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Xavier Derizon, là, quand on énonce l'idée globale, on pense forcément très vite, non pas au château, mais à la ferme des animaux, le chef-d'œuvre de George Orwell. Est-ce que c'est ce roman, qui ne date pas d'hier, puisqu'il date de 1945, qui a servi de matrice principale à ce projet ?
Absolument. En fait, c'est un roman que j'ai lu étant jeune, qui m'a frappé d'abord par sa qualité, c'est évidemment un chef-d'œuvre, et qui m'a hanté pendant de nombreuses années. Et qui m'avait aussi laissé un goût un peu amer, puisque la conclusion que je donnais à Orwell était que finalement, toute révolution était vouée à l'échec, et notamment quand ces révolutions étaient faites par la violence. Et mon idée, ça a été de chercher pendant des années un moyen de raconter une autre révolution qui se terminerait bien, et j'ai cherché ce moyen pendant très longtemps.
Donc offrir aux animaux une sorte de revanche.
Exactement. Enfin, aux animaux, et puis on le sait bien, pas qu'à eux, c'est-à-dire offrir à toutes les personnes qui luttent contre des formes de dictature, qu'elles soient à l'échelle politique, familiale, entrepreneuriale, dans les couples, allez savoir, trouver un moyen d'agir. Et c'est cette forme de désobéissance civile dont je parle dans le Château des Animaux que j'ai trouvé.
Donc on n'est pas dans une adaptation d'Orwell, on n'est pas non plus dans une réécriture, on est dans quelque chose de neuf, mais inspiré de l'idée centrale d'Orwell.
Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas une suite, c'est pas une adaptation, c'est un univers qui ressemble, évidemment, c'est un lieu où les hommes ne sont pas et les animaux sont confrontés à une dictature. Donc on pense, on va dire, à des prémices qui sont les mêmes, mais c'est vrai que les personnages n'ont rien à voir, l'intrigue n'a rien à voir, et j'ai envie de dire que quelque part, notre histoire à Félix et moi commence au moment où se termine la ferme des animaux.
Alors quand on est scénariste de bande dessinée et qu'on a justement une histoire qui tient la route, ce qui peut être à la fois ennuyeux et excitant, c'est qu'il faut la mettre en case, la mettre en image, donc il faut trouver un dessinateur. Comment on choisit un dessinateur, Xavier Derizon ?
C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand j'écris une histoire, moi je pense beaucoup en images, c'est pour ça que je fais de la bande dessinée.
Forcément.
Et je vois un style particulier, je vois une approche particulière, et donc je cherche la personne qui a la même envie que moi. Non pas qui réalise ce que j'ai en tête, parce que ça n'arrivera jamais, et puis ce que je vois est souvent mieux, mais en tout cas qui a la même vision. Et là, avec mon éditeur, Casterman, on a cherché pendant très longtemps, on a fait des essais à beaucoup de monde, jusqu'au jour où mon éditeur m'a envoyé quelques dessins de Félix.
Ça ne tombait pas tout sous le sens, parce qu'il n'a jamais publié d'album.
Ah mais non, il les avait trouvés sur Internet, pas du tout. Il avait trouvé quelques dessins sur Internet, et il me les a envoyés, donc j'ai reçu peut-être 4-5 images, pas plus. Mais le dessin a cette vertu, il est souvent d'une évidence et d'une clarté totale, et donc là c'était le cas. Je suis d'abord tombé de ma chaise, et puis quand je me suis relevé, je me suis rué sur mon téléphone, et j'ai dit à mon éditeur... Martin appelle immédiatement cette personne, c'est lui que je veux.
Alors, clin d'œil de l'histoire, Félix Delep, vous vous étiez déjà croisé ?
Oui, Xavier était mon professeur dans l'école où j'ai étudié le dessin, et puis c'était un professeur de scénario, et il donnait des cours magistraux, alors on se connaissait vraiment pas du tout, mais moi j'avais vraiment adoré ces cours.
Et... Oh, c'est gentil.
Ouais. Non, mais vraiment, c'est vrai. Là, c'est pas un compliment balancé comme ça parce qu'il est à côté de moi et qu'il pourrait me frapper, mais.
La violence ne résout rien.
La violence ne résout absolument. Et non, c'était vraiment des cours passionnants. Et puis, du coup, le hasard a fait que qu'on s'est retrouvé assez rapidement après ma sortie d'école.
Mais si vous preniez des cours de scénario, ça veut dire que à la base, vous aviez déjà envie de faire de la bande dessinée et pas seulement de dessiner, mais aussi de scénariser.
Non, c'est dans le cursus de cette école où ils donnent aussi des cours de scénario, mais comme nous expliquait Xavier, c'était pas vraiment des cours pour qu'on puisse être scénariste parce qu'il n'y avait pas assez d'heures de cours de scénario pour ça, mais c'était plus pour si on se retrouvait en face d'un scénario pour qu'on puisse un peu dégager les grandes lignes et puis voir si le scénario se tenait ou pas, nous donner des armes quoi pour la suite.
Voilà, cette école, on va citer son nom, c'est l'école Émile Cole à Lyon, une prestigieuse école de dessin qui touche à la fois à la bande dessinée, à l'animation, enfin à l'ensemble des arts graphiques, Xavier Dorizon. On peut peut-être en dire un petit mot.
Oui, c'est une école qui est à Lyon, dans laquelle les étudiants peuvent apprendre à faire du dessin animé, de la bande dessinée, de la 3D, de la 2D, de l'illustration. L'idée forte de cette école, c'est le dessin. C'est une école qui a été, on peut le dire, créée il y a assez longtemps maintenant, hein, il y a plus de 40, je crois, il y a quasiment 40 ans, avec cette idée de revenir à une approche presque académique de ces métiers. C'est vraiment une démarche d'apprentissage à travers d'abord le dessin. La première année est consacrée quasiment, Félix me confirmera, mais quasiment, je crois, à l'étude du dessin pur et dur. Et moi, j'aimais bien voilà, cette approche un peu terre à terre, pragmatique.
Alors, quand on travaille avec son ancien prof, Félix Delep, on se dit quand même c'est un drôle d'attelage, parce que d'un côté, donc il y a un quasi débutant, un petit peu en situation d'infériorité déjà à la base, puisqu'il a donc, il vous a donc appris des choses, et puis de l'autre côté, donc il y a ce scénariste chevronné, comme je le disais, qui a travaillé avec de très très grands dessinateurs. C'est un attelage qui fonctionne comment? C'est lui le chef et vous obéissez? Ça peut pas marcher comme ça quand on fait une BD.
Non, ça marche pas comme ça. Il est extrêmement ouvert aux remarques, mais par rapport à cet attelage, moi je trouve que c'est une chance énorme parce qu'en fait, ça me facilite le travail énormément. C'est beaucoup plus simple de mettre en image un scénario qui est qui véhicule les émotions très clairement, des scènes qui sont très claires, des dialogues qui marchent vraiment bien. Et en plus, ce qu'on voit dans son scénario, c'est qu'il met en scène déjà dans le scénario chaque case. Moi, j'ai vraiment un travail qui est presque uniquement de dessin, uniquement d'acteur et de
lumière. Mais ça ressemble à quoi physiquement un scénario tel que celui que vous l'avez envoyé à Félix Delep, Xavier Dorizon? C'est une sorte de gros paquet de feuilles, ça ressemble à des dialogues de théâtre, ça ressemble à une pièce, ça ressemble à un synopsis de cinéma. Physiquement, c'est quoi un scénario?
Alors, déjà, je tiens quand même vraiment à être très clair là-dessus. À partir du moment où Félix a mis le pied dans mon bureau pour qu'on fasse cette bande dessinée ensemble, il y avait un dessinateur, un scénariste, et ni l'âge, ni notre passé ne changeaient quoi que ce soit à tout ça. Ensuite, le scénario que j'ai envoyé à Félix, c'est celui que j'envoie à tous mes dessinateurs, c'est-à-dire que ça se présente comme la plupart des scénarios de bande dessinée, pas tous, mais la plupart. En gros, vous avez une description de chaque case, donc case 1, case 2, case 3 pour chaque planche. Dans chaque case, vous avez des éléments qui vous décrivent ce qu'on voit, en fait. Par exemple, Miss B se tient assise au milieu d'une grange poussiéreuse. Voilà, et puis je veux dire, c'est un plan général ou un gros plan. Et puis ensuite, je mets son dialogue.
Voilà. Donc c'est une sorte de storyboard sans image, quoi.
Exactement. Et ensuite, on se retrouve tous les deux autour d'une table avec Félix. Moi, je commence quelques vagues crayonnées, mais je dessine très très mal, contrairement à lui qui dessine très 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 bien. Et donc, ça me permet juste de donner encore plus d'informations. Et puis, à partir de là, en fait, c'est lui qui s'en va et c'est lui qui fait tout. Parce que vous pouvez écrire la meilleure idée du monde sur le papier, si elle n'est pas bien dessinée, mal mise en couleur, mal mise en scène, mal cadrée, mal jouée, ça ne donnera absolument rien.
Alors, on va évoquer les différents personnages. Hein. Pour commencer, on va parler de Miss B dans un instant, mais je voudrais quand même commencer par celui majestueux, impressionnant, que l'on découvre sur la couverture de l'album. Hein. Il trône sur un lit à baldaquin, dans la pénombre de sa chambre de châtelain. J'ai nommé Silvio le taureau. Alors pourquoi un taureau, Xavier Dorizon?
Ben à partir du moment où j'écrivais une histoire dont le sujet de fond était quand même la lutte contre la force brute, la force physique, je trouvais que dans une ferme, l'animal qu'il représentait le mieux était évidemment le taureau. Il n'y a pas de plus gros animal. Dans une, je crois que c'est plus gros qu'un. Oui, c'est plus gros qu'un cheval. C'est plus puissant. C'est
bon,
plus
et dangereux. Pourquoi le taureau Silvio? Parce que Silvio, on a évidemment, quand on est journaliste, l'esprit mal placé, forcément. Et donc, on pense tout de suite à un certain Silvio Berlusconi.
Silvio Berlu.
Ben oui, on est d'accord. Hein.
Oui, alors parce que ça sonnait bien. En fait, alors vous savez les noms.
Ça sonnait bien.
Oui, ça sonnait bien. Et puis les noms. Vous
ça
savez,
sonnait bien ou ça tombait bien?
Adolphe, ça sonne bien.
Les deux peut-être. Les deux parce qu'en fait, d'abord, alors les deux. Pourquoi les deux? Tout simplement un parce que quand vous construisez l'ensemble des noms de vos personnages, vous essayez de les différencier. Donc Silvio, je n'avais qu'un seul nom en haut. Et évidemment qu'il y avait un rappel à un président
du conseil,
j'allais dire. Voilà, conseil. Mais dans son attitude, à savoir un peu trop gros, bombant un peu trop le torse, ramenant tout à lui et s'imaginant doté d'une sagesse infinie, d'une intelligence incommensurable, d'une vision qui dépasse les standards de l'humanité, ça peut nous ramener à pas mal d'autres dictateurs, voire certains qui sont élus.
Alors comment est-ce que vous l'avez dessiné, Silvio Félix Delep? Vous êtes parti justement d'êtres humains, vous êtes parti de personnages, vous êtes parti d'animaux de la ferme, en vrai, en dessin déjà, en photo, comment vous avez construit ce personnage de Silvio?
Alors, le personnage de Silvio, c'était celui qui a pris le plus de temps à se faire, mais j'étais parti déjà comme pour tous les personnages, j'étais parti de l'animal, le taureau de base, quoi. Et puis, c'était évident que ce serait un taureau noir, parce que ça collait complètement avec l'esprit du personnage. Et au départ, j'avais fait un taureau qui avait des pattes un peu toutes fines, enfin, ça collait vraiment, pas vraiment, et Xavier m'a poussé pour faire de plus en plus, enfin quelque chose de tout en muscles et après juste pour les proportions et qu'il puisse véhiculer des émotions humaines, je me suis juste arrangé pour le visage qui est pas vraiment celui d'un taureau, mais c'est ça. Et sinon j'ai essayé de m'inspirer de dictateurs comme Staline. Quelque chose de vraiment musclé, ouais.
Voilà, de tellurique, hein, vraiment, quelque part, votre taureau. Et pour asseoir son pouvoir, il y a évidemment la meute qui l'escorte, hein. Il est secondé par une meute de chiens cruels. Alors, numéro 1, numéro 2, ils ont aussi des identités, hein, mais enfin, ils s'appellent aussi numéro 1, numéro 2. Alors, souvent, le chien, c'est un animal plutôt sympathique en bande dessinée. On a plein de héros en tête, pas toujours très malin, mais souvent sympathique. Là, c'est pas du tout le cas. Vos chiens, ils sont pas très sympas quand même, Félix.
Oui, non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps, ils sont pas très sympas et il y a une sorte de dynamique entre les différents chiens qui fait qu'ils en deviennent presque sympathiques.
Parce qu'ils se posent des questions quand même au fil du temps, au fil de la BD. Et puis on sent quand même des tiraillements au sein de la milice.
Oui,
hein. Quelques ferments du scénario sont déjà là dès le début. Hein.
Exactement. Ils sont vraiment pas tous pareils. Ils n'ont pas tous la même situation et ils sont exactement pas tiraillés par les mêmes choses. Et par exemple, numéro 1 qui est une sorte d'idiot qui est mis là parce que c'est pratique qu'ils prennent toute leur responsabilité. Lui, on devient presque sympathique au bout d'un moment parce qu'il se retrouve vraiment dans plein de moments à devoir diriger et il fait toujours les mauvais choix. Et numéro 2 est là pour être vraiment le cerbère de Sylvie.
Voilà, et il est en embuscade, il attend que son pote trébuche pour éventuellement prendre sa place. Et puis, il y a donc les chiens. Et évidemment, dans le camp d'en face, si j'ose dire, il y a les chats, et singulièrement la chatte Miss Bangalore, Miss B, hein, pour les intimes, Xavier Dorizon. Alors, elle élève seule ses chatons, on peut pas dire qu'elle soit dans une situation sociale enviable. Elle travaille, elle assure de son front sur un chantier pour les nourrir, c'est une sorte de mère courage, quoi. Hein.
C'est exactement ça, c'est une mère courage, et c'est donc, au départ, la dernière personne au monde qui va aller faire de la politique ou qui va aller guider un mouvement. D'abord, elle n'en a pas les moyens physiques, parce que c'est juste un petit chat, en fait. Voilà. Et ensuite, elle n'en a pas l'ambition. Et elle est comme nous tous, je crois, la plupart des gens, à se dire on va baisser la tête et puis on va attendre que l'orage passe, quoi. Et si on ne fait pas de bruit, ça se passera bien. Et elle va voir que, comme souvent, quand on ne va pas à la politique, c'est la politique qui vient à nous.
Nous sommes page 33 de votre album.
Et c'est qui vient nous garder quand vous allez travailler? Et pourquoi ce serait pas vous? Vous pourriez pas rester avec nous? Restez, mère, allez!
Je,
Je voudrais tellement, mais votre père n'est plus là. Et si je ne travaille pas, qui paiera nos rations ?
Bah, comment allez-vous faire alors ?
Je vais trouver un moyen.
Mère, c'est la milice !
Calmez-vous les enfants !
Il y a quelqu'un ?
Non, n'ouvrez pas ! On ne veut pas être dévoré au poteau de justice !
Tout va bien se passer.
Ah, vous avez mis le temps ! Oh là, c'est pas animal de vivre dans une piole pareille. J'ai déjà vu des décos vieux jeux, mais alors là, c'est le pompon.
Monsieur César.
Allons, oublions le monsieur, ma belle. Toutes les femelles m'appellent par mon petit nom, César.
Monsieur César, vous tombez au mauvais moment et la déco de ma tanière n'est pas votre problème.
Faux et faux, princesse. Je tombe pile au bon moment. Et si je reste ici à garder les chatons tous les jours, faudrait que j'y aie mon confort.
Vous pouvez répéter ça ?
Je bosse que la nuit, et j'adore les petits. Alors, vous me laissez les vôtres, vous allez ramasser vos pierres, refaire vos murs, et nous, pendant ce temps-là, on s'amuse. Vous en dites quoi, les jeunes ?
Je ne vous connais pas, monsieur.
Ok, posez-moi des questions.
Mais ça ne marche pas comme ça.
Et comment alors ? Vous avez trop d'amis et vous n'en voulez plus ?
Non.
Alors c'est comme ça que vous remerciez les animaux qui veulent vous aider ?
Je dois manquer d'habitude.
Allez, dites-lui, qu'est-ce qu'on risque ?
Ce serait juste pour aujourd'hui et je ne pourrais pas vous payer plus de 2 boutons par jour.
Je vous le fais pour 1.
Ils font au moins 4 siestes de 2 heures.
Notez.
Ils doivent s'être léchés de la tête aux pattes pour mon retour.
Ce sera fait.
Et ils ne doivent pas que jouer mais aussi apprendre à...
Ouais, quelle entrée et quelle sortie théâtrale, hein, quand même, de César, le personnage du lapin. Vous aviez des images, hein, en tête quand vous écriviez votre scénario, Xavier Dorizon. Vous aviez des voix aussi, peut-être?
Oui, j'avais des voix, des acteurs. Ceux-là sont très bien. C'est pas forcément ceux que j'avais en tête, mais ceux-là sont très bien.
Alors, César, ouais. Justement, parce que je sais pas si c'est votre cas. Mais moi, quand j'ai vu César débouler, parce qu'il déboule à plusieurs reprises, hein, il n'y a pas seulement cette entrée et cette sortie très théâtrale dans la bande dessinée, ça m'a fait penser à Jean-Paul Belmondo.
Ah, c'est amusant. Écoutez, moi, au départ, dans le type de personnage, physiquement, je voyais une sorte de Clark Gable lapin, ou d'Humphrey Bogart de Casablanca, parce qu'il n'y a plus d'Humphrey Bogart, mais voilà, faire ce côté... très masculin, très macho, très sûr de lui.
Ouais, un peu hableur aussi. Hein.
Ouais, un peu hableur, qui sait ce qu'il veut. Ça, c'est pour l'apparence. Et dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était de mettre un personnage qui soit l'hyper pragmatique. C'est-à-dire que de la même manière que Miss B, la dernière personne au monde qui va aller diriger une révolution, un pragmatique réaliste comme ce lapin qui est gigolo pour ses lapines quand même, c'est ça son travail, et la dernière personne au monde aussi qui va croire à des grandes idées politiques, à la non-violence, à la désobéissance civile. Et donc si à travers l'histoire j'arrive à les convaincre eux, je me dis que quelque part j'ai une chance de convaincre nos lecteurs.
Alors parmi les amis de Miss B, il y a donc César le lapin, il y a aussi Marguerite, une oie, qui va devenir un peu martyr de la cause, un martyr du pouvoir, et vous montrer Félix Delep, la pauvre Marguerite, dans une situation extrêmement horrible. Vous la montrez éventrée par une hache qui la cloue sur une porte. Enfin, c'est vraiment une case, mais c'est vraiment terrible. Elle est morte, elle a le bec ouvert, il y a du sang partout. Racontez-nous cette case qui se trouve à la page 27 de l'album. C'était important de montrer l'horreur, de montrer la violence, de montrer le sang.
Oui, je pense que c'était vraiment important de montrer que tous les animaux de cette ferme étaient en position de réel danger. C'est ce qui est montré aussi au tout début de l'album, avec, je ne spoil rien parce que c'est la page 1, mais avec la poule qui se fait tuer parce qu'elle a voulu garder un œuf qu'elle a pondu elle. Et du coup, garder un enfant, et sauf que le système est mis en place de telle sorte qu'elle devait le donner, elle ne l'a pas donné, elle se fait tuer par les chiens. Et suite à ça, il y a une sorte de révolte qui naît, et Marguerite est la chef de cette révolte, et elle se fait littéralement...
Trucidée.
Mais c'est aussi parce qu'ils ont fait cette révolte... de manière frontale, et le pouvoir en place, les chiens et le taureau avaient beaucoup plus de puissance physique qu'eux. Et Goose, c'était pour montrer le fait qu'en essayant de se battre avec les mêmes armes qu'eux, ça allait forcément mal finir, au moins pour une bonne partie des animaux.
Oui, cette scène-là, c'est vraiment un tournant hein, dans l'album Xavier d'Horizon. Et on sent d'ailleurs dans le dessin de Félix Delep la prise de conscience, en particulier du personnage de Miss Bangalore, quand elle voit comme ça son ami dans cette situation-là. Et il y a un focus comme ça très cinématographique sur ses yeux. Et toute la suite de l'histoire, finalement, commence là.
Oui, c'est ces moments qu'on peut parfois vivre où on croit que ça va aller, on refuse de voir l'évidence, on refuse de changer, en fait, jusqu'au moment où ce refus du changement nous emmène droit dans le mur. Et c'est ce moment-là qu'elle vit. Et c'est vrai que c'était important d'être violent parce que c'était clairement pour dire, un, si vous pensez changer les choses par la violence, vous ne ferez qu'empirer les choses. Et deux, vous n'avez dans le fond aucune chance d'y arriver comme ça.
On va replonger dans l'album avec cette fois-ci une scène qui se passe à partir de la page 30. Voici le président Silvio, donc le taureau, qui va s'adresser à son peuple dans la cour du château. Alors Félix Delep dessine le taureau, le lourd président Silvio qui arrive dans une charrette, traîné péniblement par un attelage hétéroclite formé par des moutons, un bélier et puis un petit cheval. Il y a le bruit du sabot hein, qu'on va entendre quand il descend. Il y a ensuite son discours plein d'emphase et de menaces.
Oui, réjouissez-vous et faites place. Au président, c'est Lio.
Chers animaux, chers deux pattes, chers quatre pattes, chers frères à plumes, à poils, je partage votre tristesse. Le sang de nos frères, même celui des traîtres ou des criminels, même ce sang-là nous laisse à tous un goût amer. Un goût qu'il sera difficile d'oublier. Mais il le faudra pourtant. Si les loups ont vent de la moindre de nos faiblesses, de la plus petite de nos dissensions, alors ils envahiront le château. Ils prendront vos places, engloutiront vos récoltes, égorgeront vos frères, vos petits et vos femelles. Est-ce cela que vous voulez ? Tous ceux qui prônent le désordre, la désunion ou la désobéissance sont des criminels qui veulent notre mort. Parce que sans union, pas de force. Et sans force, pas de survie. Il n'y a que la force et elle seule qui nous sauvera tous. Rien d'autre. Demain, sur qui compterez-vous pour risquer sa vie et vous protéger des meutes de loups affamés ? Lui ? Elle ? Ou elle peut-être ? Et encore moins lui. Ne les écoutez pas, monsieur. Ce sont tous des idiots.
Les chiens, ils ne nous protègent même pas. Ils ont tué notre Marguerite.
Les enfants, laissez monsieur César tranquille, venez de ce côté.
Vous voyez bien par vous-même. La nature a choisi elle-même. Qui devait vous défendre ? Elle a rendu les chiens et les taureaux plus forts que les autres pour une seule raison. Dirigez ! Mon devoir est de vous guider, avec fermeté, discipline, mais le cœur ouvert. Et c'est pour cela que je vous pardonne, comme je pardonne à tous les animaux morts. Pour preuve, j'ai demandé aux chiens d'enlever leurs dépouilles pour leur donner une sépulture digne. Mais même dans ma grande mansuétude, je me dois de condamner au poteau de justice le chef démoniaque de cette tentative de coup d'État contre les animaux. Un être vil et machiavélique. Le mouton Bulot.
Et non, j'étais même pas là, je broutais.
Viens nous raconter ça au poteau de justice. Suis-nous.
Chers animaux, chers deux pattes, chers quatre pattes, chers frères à plumes, à poils, je vous appelle à la lucidité et à la fraternité. Souvenez-vous toujours que vous avez besoin d'être protégés et que pour cela, rien n'est plus fort que la force.
Et là, Xavier Dorizon, on a dans ce discours du taureau Silvio toutes les caractéristiques du pouvoir autoritaire et même totalitaire. Il y a la référence à l'ennemi extérieur, il y a le bouc émissaire, qui n'est pas un bouc mais un mouton, en l'occurrence dans l'histoire, mais on n'est pas très très loin. Il y a le dictateur en rempart, en sauveur, il y a l'importance de la force, il y a la mansuétude, il emploie d'ailleurs lui-même le mot dans le discours, et puis surtout il y a le ressort de la peur. Comment est-ce que vous avez écrit le discours, les mots de ce taureau Silvio?
Je me suis inspiré, enfin je crois que vous l'avez bien résumé, je me suis inspiré des grands principes qui font que des dictateurs, des hommes politiques arrivent à souvent contrôler des masses. Le plus terrible, c'est que c'est même pas un secret, c'est des principes très connus. Vous avez notamment Naomi Klein qu'on a très très bien parlé dans la stratégie du choc, c'est-à-dire que en gros vous voulez contrôler une population, vous voulez l'amener à faire des choses atroces. Vous commencez par lui trouver un ennemi, à augmenter le danger que représente cet ennemi, à parler de tout ce qu'il pourrait faire, de tout ce qu'il pourrait représenter. Ensuite, vous le déshumanisez toujours. Bon, là, c'est des loups, ils sont pas comme eux. Donc, un ennemi déshumanisé, et ensuite, vous vous posez en seul garant de la justice. Et le réflexe grégaire qu'on a tous est de préférer sacrifier une partie de notre liberté, de notre indépendance, pour nous protéger de nos peurs. Et je veux dire, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal ou d'écouter n'importe quelle nouvelle de différentes chaînes d'aujourd'hui pour voir que c'est totalement d'actualité. Les ennemis, ça va être les Mexicains, ça va être les immigrés, ça va être... voilà. Et on va en trouver, ça va être les impies, ça va être... De toute façon, chacun a les siens.
Alors, on a entendu les discours, les mots, les bruitages mis en onde par Michael Goncalves, notre réalisateur. Je voudrais qu'on en revienne au dessin de cette scène, Félix Delep, parce que cette scène dans l'album, elle fait deux planches et demie, à peu près. Pendant ce discours, vous faites un va-et-vient entre le personnage du taureau, qui prononce donc ces mots, et puis tous les personnages qui sont à l'intérieur de la foule. Alors, il y a des focus sur tel ou tel personnage, il y a des plans peut-être un petit peu plus larges, et souvent, il y a des expressions de visage et il y a des postures. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'ensemble de l'album, c'est-à-dire que tous vos dessins de personnages sont extrêmement travaillés, sont des dessins extrêmement expressifs qu'il faut prendre le temps de regarder vraiment en détail parce que c'est justement, c'est le cas de le dire, c'est vraiment dans les détails finalement que se logent tous les types d'émotions. Comment est-ce que vous parvenez justement à placer le curseur de votre expressivité dans le dessin?
Je pense qu'il y a une histoire d'empathie là-dedans, mais c'est
vous vous mettez à la place de chacune de chacun des personnages.
À la place de chacun des personnages. Et d'ailleurs, ça c'est un truc. Quand on dessine une expression, on a toujours tendance à prendre l'expression qu'on dessine soi-même. Quoi. Si je dessine quelqu'un d'énervé, je suis énervé moi-même. Et c'est ça pour.
Et ça va se ressentir dans le trait de votre crayon, c'est-à-dire vous énervez vous-même pour que votre doigt et votre crayon répondent à cette émotion.
Oui, et puis vraiment retransmettre l'émotion. Juste parce que je pense pas que ce soit possible de retransmettre une bonne émotion en étant complètement impassible. Il y en a peut-être qui y arrivent très bien, mais en tout cas, j'ai entendu beaucoup de dessinateurs parler de ça, de se mettre à la place de ces personnages, et même on n'y peut rien, quoi. C'est peu importe ce qu'on fait, si on dessine une expression, on aura forcément tendance à la jouer soi-même. Et là, dans cette scène, par exemple, il y a beaucoup de jeux de contre-plongée et de plongée selon qu'on est dominant ou dominé. Ça, c'est vraiment juste de la pure mise en scène. Et je voulais faire quelque chose d'assez martial et d'un peu dans les codes du Troisième Reich. Enfin, bon, ça se voit en voyant la page, mais il y a des sortes de grands drapeaux et puis des sortes de scènes de contre-plongée avec les animaux entourés par leurs drapeaux verticaux.
Mais c'est vrai que c'est des codes qui, même inconsciemment, parlent effectivement à l'imaginaire de chacun de vos lecteurs. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet anthropomorphisme extrêmement expressif, même s'il s'agit évidemment d'animaux. Donc on pense évidemment à Disney. Vous êtes un enfant aussi de Walt Disney, un enfant de l'animation.
Moi, j'adore l'animation. J'ai jamais travaillé dans l'animation parce que moi, justement, dans mon école, j'étais dans une section qui s'appelle édition. Du coup, j'étais vraiment destiné pour la bande dessinée ou l'illustration. Mais j'adore vraiment l'animation et puis je suis admiratif de ces dessinateurs-là. Et Disney, même au début du projet, Xavier m'avait dit, moi j'aimerais que ce soit une histoire qui soit un peu dans l'esprit des Aristochats d'un point de vue graphique. Et bon, alors c'est pas exactement comme les Aristochats parce que c'est ma façon de faire et puis bref. Mais...
Non, mais on retrouve bien cet esprit-là, hein, effectivement, de Milt Kalt. Hein, c'est
oui,
comme
oui,
ça que c'est lui le dessinateur des studios Disney pour les Aristochats.
Oui, enfin, c'est celui qui a fait la grande majorité des chara-design pour les Aristochats, pour Robin des Bois. C'est la grande époque du début de Disney. Et c'est un gars qui a vraiment, synthétisé chaque animal. Et puis j'ai juste pu reprendre son travail, le travail d'autres dessinateurs comme Wen Ling ou Franquin, et puis essayer de faire ma synthèse et puis essayer de me débrouiller pour progresser. Et voilà.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tu tenais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
Désobéissance civile. Désobéissance civile sur RFI. Kenny Arcana dans VMDN avec le dessinateur Félix Delep et le scénariste Xavier Dorizon pour Miss Bangalore, le premier tome du Château des Animaux chez Casterman. Désobéissance civile, c'est ça, Xavier Dorizon, le meilleur moyen quand on est révolté, quand on est en situation de résistance, de lutter contre une dictature?
Je ne sais pas si c'est le meilleur, c'est juste que, à titre personnel, j'en connais pas d'autres, et ce dont je suis sûr, c'est que ça vaudra toujours mieux que la violence.
C'est pour quelle raison? Vous pensez vraiment que s'asseoir tranquillement, faire un sit-in et ne pas respecter un certain nombre de lois sans forcément se faire entendre de façon violente, de façon magistrale, c'est plus efficace?
Ah non, mais la désobéissance civile, c'est pas la non-action. C'est pas s'asseoir et plus bouger. Ça peut être faire un sit-in, oui, éventuellement. Ça peut être... ce que ça peut être, c'est ce qu'on va expliquer dans les quatre tomes du Château des Animaux, mais le premier commence par montrer un des premiers aspects, qui est de faire reconnaître l'injustice, en parler, la rendre visible. Ça c'est une première étape, mais ce que cherchent la plupart des systèmes qui génèrent des injustices, c'est à les cacher. Alors, il y a une petite exception avec Daesh qui en fait presque sa marque de fabrique, mais, et encore, qui cache les vraies injustices, bon, sa cruauté, non pas sa justice. Mais ça, c'est la première chose. Et au-delà d'aller commencer par la montrer, la faire ressentir, c'est ce qu'ont montré Soro ou Gandhi, à travers des actions qui peuvent être très différentes, des non-consommations, des blocages, des blocus, effectivement, des sittings. La liste pourrait être très très longue. L'idée est de faire comprendre que vous ne participerez pas, que vous ne serez pas violent. Donc si vous n'êtes pas violent, vous n'allez pas générer plus de résistance et plus de violence de la part de celui qui va vous combattre.
c'est la première chose, qui de toute façon, en général, est sur ce domaine beaucoup plus fort que vous.
Vous parliez de Thoreau à l'instant, de Gandhi. Est-ce que vous vous êtes nourri justement de lecture, de philosophie politique pour élaborer votre histoire ?
Bien sûr. Essentiellement de Gandhi, je dois dire, dont une bonne partie des citations sont parfois légèrement transformées, voire parfois reprises telles que par certains de mes personnages, notamment par celui qui vient leur enseigner la désobéissance civile, qui s'appelle Azélar. Et j'ai beaucoup aussi suivi et lu à propos de ce qui a été fait, alors bien sûr en Pologne, en Afrique du Sud, et tout particulièrement en Serbie, par le mouvement Otpor, qui a réussi à faire partir Vladimir Milosevic, Slobodan Milosevic, qui, aux dernières nouvelles, n'était pas quelqu'un qui attendait que les gens restent assis, ne bougent pas. Et croyez-moi, les gens d'Otpor ne se sont pas contentés de ne pas bouger.
Alors, ce personnage qui s'appelle Azélar, Félix Delep, c'est un petit rat sympathique, un vieux rat sympathique avec des lunettes. Alors là aussi, même question que tout à l'heure, pourquoi a-t-il ce visage-là? Il fallait qu'il soit à la fois un peu saltimbanque, parce que c'est un homme du théâtre, et en même temps suffisamment sérieux, suffisamment philosophe pour être crédible.
Et puis, moi j'ai juste essayé de rendre... Il y avait le scénario de Xavier qui le présentait comme l'espèce de mentor, de rat itinérant qui arrive pour apporter un petit peu sa vision extérieure. C'est un rat qui a beaucoup voyagé, et du coup, sa vision extérieure va aider les animaux qui sont dans la ferme depuis toujours à voir les injustices. Et puis, il va aider Miss B à élaborer une stratégie pour ça. Et du coup, moi, dans mon design, ce qui était vraiment important, c'était de pouvoir le rendre expressif. Et oui, c'était vraiment le vieux sage, mais un peu taquin, quoi.
Oui, un peu taquin, et aussi, vraiment, j'insiste, saltimbanque, parce qu'il y a tout un spectacle qu'il donne dans le cadre de la ferme, et qui met justement en valeur à la fois les idées et le personnage de Gandhi. Et c'est vraiment, pour moi, graphiquement, l'une des parties les plus belles de cet album, parce que vous travaillez beaucoup en ombre chinoise. Racontez-nous justement la scénarisation de ce spectacle d'ombre, finalement, parce que c'est de l'ombre que vient la lumière, quoi, d'une certaine façon.
Oui, exactement. Et puis là, oui, du coup, c'est une scène où le rat fait une sorte de jeu de théâtre d'ombre, et comme tu as dit, il parle principalement de Gandhi et de l'Empire britannique. Et moi, je me suis pas mal inspiré du travail d'Hugo Pratt, qui joue beaucoup avec les ombres, et il y a toute une partie de, je sais plus exactement dans quel album c'est, mais il y a vraiment
dans
Corto Maltese, mais je sais pas quel album précis de Corto Maltese, où t'as, ils sont dans le monde des ombres, et je crois que c'est peut-être dans Mu, et du coup, moi je me suis pas mal inspiré de ça, et il y a une sorte de grande liberté prise, mais pour parler de cette scène, il vaut mieux demander à
Xavier, s'adresser,
parce que c'est lui le...
Alors c'est vous qui avez justement induit justement cette référence au théâtre, et singulièrement au théâtre d'ombre, parce que c'est une façon de dire, Xavier Dorizon, que c'est de la culture, que c'est du théâtre, que c'est de l'art, que vient la solution face justement aux dérives autoritaires ou totalitaires.
Bah, déjà dans la forme du théâtre d'ombre, l'idée était de dire que c'était ce qu'il y avait de plus intemporel et de plus universel. C'est-à-dire que c'est des silhouettes, et donc ces silhouettes s'adaptent quelque part à toutes les histoires, à toutes les civilisations, et pas spécifiquement à celle du château. Ensuite, l'idée, c'était que ce personnage raconte évidemment la vie d'un fakir va-nu-pied, c'est comme ça que Churchill appelait Gandhi, et de montrer que ce petit fakir, tout seul, va-nu-pied, sans la moindre arme, avait réussi à faire partir l'Empire britannique, ce qui, quand il a commencé, paraissait totalement impossible. Donc ça, c'était le sujet. Après, est-ce que les histoires peuvent changer le monde ? Je crois, pas forcément un album, pas forcément un livre, mais ça a été montré depuis très longtemps, à savoir qu'on baigne tous dans des idéologies qui viennent essentiellement effectivement de l'art, des arts narratifs, qui façonnent nos évidences, qui nous font dire « mais c'est évident, c'est sûr ». Et c'est ces idées-là qui font changer le monde. Ces idées changent beaucoup, on le sait, depuis des milliers d'années. Et qui forme ces idées au départ, je crois quand même que ce sont les gens qui ont accès aux histoires dans tous les sens du terme. Et donc, personne, il n'y a pas de monopole à une personne, mais tous ceux qui font des histoires, à mon avis, ont une petite responsabilité à l'élaboration de cette grande, on va dire, idéologie structurante.
Mais pour vous, ce discours de la non-violence d'un Gandhi, on pourrait dire d'un Mandela, aussi, il continue de résonner aujourd'hui. C'est un discours qui vous semble d'actualité?
Mais c'est un discours qui est difficile hein, à tenir. Il faut, bien sûr, d'une part, parce que pour ceux qui vont même essayer de faire la non-violence, c'est dur de le rester. Ah, on en est tous conscients, je veux dire, moi le premier, je suis pour la non-violence et je m'énerve tout le temps. Donc c'est dur pour chacun de rester non-violent. Le premier ennemi de la non-violence, c'est toujours nous-mêmes, déjà. Et ensuite, c'est dur parce qu'il faut convaincre les autres. Mais si vous regardez les mouvements qui ont eu lieu dans les révolutions qui ont lieu depuis pas mal d'années, vous voyez d'ailleurs assez clairement que ceux qui ont su rester non-violents s'en sont plutôt bien sortis. Je pense notamment, même si c'est très compliqué, mais plutôt la Tunisie, par exemple, que l'Algérie, les mouvements en Algérie, pour l'instant, essayent de s'y tenir. Que les mouvements en Syrie, au départ, on s'en souvient pas forcément, mais beaucoup de révolutionnaires en Syrie avaient dans l'objectif de rester non-violents. Et Bachar al-Assad a gagné puisqu'il a réussi à les rendre violents. Bon, bah, c'est lui qui a gagné au final. Et la question, par exemple, qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'à Hong Kong, les manifestants vont réussir à rester non-violents ou basculer? Et s'ils passent du côté de la violence, honnêtement, entre eux et l'armée chinoise, on sait qui va gagner.
Alors, dernière question, les hommes ne sont plus dans le château des animaux, mais ils n'ont pas disparu de la surface de la Terre. Ils sont toujours là, Xavier Dorizon?
Ils sont, je crois que tous les systèmes dictatoriaux ou les systèmes injustes, au bout d'un moment, ont toujours besoin de l'extérieur pour tenir. Cuba n'aurait pas tenu sans l'URSS, la Corée du Nord ne tiendrait pas non plus sans la Chine, et un certain nombre de pétromonarchies dictatoriales ne tiendraient pas si on ne leur achetait pas leur pétrole. Voilà, ces systèmes sont tellement mauvais qu'ils sont incapables de tenir par eux-mêmes. Ils ont toujours besoin des autres. Et ces autres, eh bien, dans mon histoire, c'était des hommes, mais qu'on ne verra très peu et que sous forme d'ombre.
Voilà, c'est une tétralogie, hein, en tout cas, donc ça veut dire qu'il y aura encore 3 tomes à venir. Tout est déjà écrit jusqu'à la fin. Il n'y aura pas de surprise.
Ah, j'espère que vous aurez plein de surprises.
Oui, ça mais, pour nous, j'imagine, oui.
Mais pour mon éditeur et Félix, j'espère que non.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir, Félix Delep et Xavier Dorizon.
Merci à vous.
Château des animaux chez Casterman, un album que vous pouvez gagner en répondant à la question du jour uniquement par message privé à partir de la page Facebook de l'émission. Vous m'en direz des nouvelles. La question est la suivante. Comment s'appelle dans l'album le personnage du taureau? Et bravo à nos gagnants du jeu de vendredi dernier. Jupiter, Jacques Juvenil, Newki de Dakar au Sénégal, Fawaz Yesufu d'Abomey Calavi au Bénin et Rudy Tabalo de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Tous 3 recevront donc l'album Dracula de Georges Besse, paru aux éditions Glénat. La bonne réponse à la question était Keith Richards.
Mon petit amour est mort, mon petit amour est mort, mon petit amour est mort, je l'aime encore, mon petit amour est mort.
Estelle Meyer dans VMDN sur RFI, mon petit amour, bonjour Alain Pilot.
Bon, je préfère pas l'antenne quand même. Bonjour Jean-François, bonjour Félix Delep et Xavier Dorizon.
La comédienne chanteuse Estelle Meyer propose donc son premier livre disque.
Baptisé sous ma robe mon cœur, vers 6 ans, on demande à la petite Estelle ce qu'elle voudrait faire plus tard. Elle, que l'on déguisait à l'époque en étoile, répond star ou bien sainte. Eh bien, la préface de ce livre disque est signée Judith Chemla, actrice française, ancienne pensionnaire de la Comédie française, qui estime que la voix d'Estelle Meyer peut faire pleurer. Pourquoi écrit-elle ceci, Estelle?
C'est une question émouvante. C'est difficile de le dire. Peut-être quand ça devient universel, peut-être quand j'arrive à être tellement nue qu'on peut tous se voir.
Alors on l'a compris, Alain, Estelle Meyer, très jeune, souhaite déjà faire entendre sa voix.
Et ça commence par une ode non pas à son taureau ou à son chien, mais à sa lapine chérie qui était partie. Comment faisait cet hymne, Estelle?
C'est trop mignon. Bon, en fait, ma lapine, elle s'appelait Coulis, c'était une angora papillon. Quand elle est morte, je suis vraiment roulée par terre de détresse. Et vraiment, c'était entre des cris, des pleurs et des...
Le bestiaire est au répertoire d'Estelle Meyer, mais les éléments naturels également, à l'instar de la grosse caisse du ciel ou le chant du soleil. On a le sentiment que de nombreux fragments de la nature lui inspirent le son d'instrument.
Ouais, bah, y a une chanson qui s'appelle Félicitad, qui est où on salue le ciel, la terre, mamater, grande mère, pachamama. Enfin, il y a un, voilà, des chants anciens. Il y a luminosité du feu, brûlons, brillons, cramons, flammes sacrées jaillissons, feu de bois, feu de joie. Le feu, il y a l'eau, de la mer l'eau jaillit, bébé d'or, cri de vie, reine des flots, reine joyau, Aphrodite est dans l'eau. Voilà les grands éléments. Bah, les chamans, ils utilisent les directions qui sont le vent, la direction des ancêtres, le nord. Il y a la direction du sud, c'est l'eau, c'est bleu, c'est ce qu'on laisse derrière nous, c'est la promesse, c'est l'identité. Il y a la direction de la terre, c'est l'ouest, c'est rouge, c'est l'abondance, c'est les fleurs, c'est la maman qui console. Il y a la direction de l'est, c'est le commencement, c'est le matin, c'est le soleil qui démarre. Donc on les a en nous. Même, vous savez, en acupuncture, les organes, elles ont une direction. Donc chaque direction correspond à une énergie, à une source, à des animaux aussi. Par exemple, le nord, c'est le bison, c'est l'étoile polaire. C'est beau, ça nous ouvre, ça nous rappelle qu'on est large.
Tête de femme, des sirènes aux doigts infâmes qui perdent les matelots, qui dévorent les âmes. Il y a dans mon cœur des civilisations amies qui se fracassent car elles se sont aimées.
Estelle Meyer, il y a... Mais pour quelle raison Estelle chante-t-elle autant la femme ?
Parce que je suis une femme, parce qu'elle mérite, parce qu'il y a eu tellement de siècles de silence, de millénaires de silence, parce que c'est une telle joie cette sororité et tout ce féminin qui se réveille, parce que ça nous guérit, hommes et femmes, parce qu'il est temps d'honorer la femme. J'ai même pas envie de dire d'autres mots parce que je voudrais même pas trop qualifier pour laisser ouvert. La beauté femme et la chanter comme un rhinocéros, la chanter comme de la couleur de torrent, comme de la furie, comme de la délicatesse, comme des abricots, lui donner des étoffes inattendues, nouvelles, des fleurs puissantes, entêtantes, sauvages, comme un grand champ inconnu, où tu vois des fleurs dingues et t'es là. Non, la nature a fait ça, c'est pas vrai.
Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, pour toutes mes reines qui ne peuvent J'aime, pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse, pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, pour toutes mes sœurs.
Pour toutes mes sœurs, Estelle Meyer dans VMDN sur RFI, Estelle Meyer qui chante aussi pour les hommes sur scène, ou par exemple Alain.
Au plateau sauvage à Paris, Jean-François, la semaine prochaine, 5 jours durant. Mais comment explique cette femme au galop qu'un concert puisse lui faire l'effet justement d'un grand galop de chevaux qui est passé sur son cœur, comme elle l'écrit sur les réseaux sociaux?
Bah, en fait, c'est... Ouais, c'est comme des tambours, quoi. Ça commencerait... Et puis après, ça, c'est comme si ça accélérait et qu'en fait, il y en a de plus en plus et qu'en fait, t'es emporté toi-même comme sur, je sais pas, comme un rocher qui court, quoi, qui court, qui roule, qui s'emporte, qui est saisi par sa propre force. Mais je sais pas, moi, toute seule, le rocher, c'est l'instant, c'est les vivants. C'est comme si tout d'un coup, la vie t'emporte, quoi, comme un tourbillon. Et tu te réveilles d'un concert et t'as l'impression d'être complètement sonné ou de léviter. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même des fois, tu sors de scène, par exemple, tu t'es cogné, même des fois, tu saignes. T'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aucun souvenir. Mais tu t'en fous. Peut-être tu peux même perdre un sein, il sort, il revient. On s'en fout. Tout se libère et ça nous échappe.
Dans mes règles, le sang est bleu. Aristocrate au manteau de brume.
Mes cardinales, extrait de Sous ma robe, mon cœur, sorti chez Rive Neuve Archimbault. Estelle Meyer en spectacle du 12 au 16 novembre au Plateau Sauvage à Paris, dans le 20e arrondissement. Elle sera le 21 à Lyon, le 6 décembre à Beaucourt, dans le département du Territoire de Belfort, le 14 à Fontenay-sous-Bois, près de Paris, et le 30 janvier 2020, rendez-vous cette fois à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Merci Alain. Dans un instant, le journal. À demain avec le chanteur Dave qui viendra nous présenter son nouvel album, et vous m'en direz des nouvelles.
Ce mercredi, vivez sur...